Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 2 juillet, on change de cap. Première migration estivale ce week-end. 1 million de voyageurs attendus à la SNCF. La Cour des comptes épingle, elle, la sécurité routière. Le tout radar n'est pas la bonne option pour faire baisser le nombre de morts sur la route. La vaccination, on change de cap. Là aussi, l'exécutif consulte pour la rendre obligatoire pour les soignants. La Haute Autorité de Santé envisage une obligation pour tous. Dans RTL Midi aussi, Hubert Caouissin souffre d'un délire de persécution, mais son discernement n'est pas aboli. C'est ce qu'affirme ce matin un expert psychiatre au procès à Nantes de l'homme qui a tué 4 membres de sa belle famille. Vierzon, le Creusot, la 7e étape du Tour de France aujourd'hui est la plus longue depuis 20 ans. 249 km, le peloton est déjà parti il y a 1h30 déjà. Où en est-on, Mourad Djabari ?
Avec une échappée royale de très haut niveau emmenée par le maillot jaune Mathieu Van Der Poel, le Belge Wout Van Aert, 3e au général, les deux habitués des classiques de ce genre de course, des longues étapes difficiles et accidentées. Ils sont accompagnés d'un vainqueur du Tour, le requin de Messine Vincenzo Nibali, de Simon Yates, Philippe Gilbert, un groupe de 30 coureurs avec deux Français, Franck Bonamour et Christophe Laporte. Ce groupe de tête a 2 minutes d'avance sur le peloton emmené par l'équipe de Pogacar qui tente de combler le trou, mais on assiste sûrement à l'échappée du jour. Malheureusement, Julien Alaphilippe, notre Français, n'a pas accroché le bon wagon pour cette étape marathon. 249 km, presque 6 heures de sel, plus de 60 km parcourus, Christelle, et déjà un début explosif.
Merci Mourad, et tout à l'heure RTL chez vous avec Christophe Paco. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Alors comme ça, on se dépêche d'en profiter.
Oui, c'est pas mal quand même globalement. Super. Il fait beau, on a déjà quelques nuages qui arrivent sur la pointe bretonne. Bon, ça c'est pas bon signe. D'ici ce soir, les régions au nord de la Seine vont à nouveau avoir un ciel assez nuageux avec des averses ici ou là. Rien de trop conséquent dans un premier temps. Franchement, c'est la plus belle journée de la semaine et même depuis plusieurs semaines, en tout cas pour la moitié nord. Reste que les températures ont bien grimpé. Cette fois, on est en plein dans la saison. 21 degrés à Cherbourg cet après-midi, 24 à Reims et Nancy, 26 à Paris, 27 à Limoges, 28 degrés à Lyon, 29 pour Bordeaux et 32 à Montpellier.
La question du jour sur RTL.fr. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour tous? On attend vos arguments, vos appels au 3210. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour, ce sera évidemment une des questions centrales de notre émission. Le nombre de morts qui perdent la vie sur nos routes, qui stagnent depuis 2013, ce sera une autre interrogation du jour. On pourra évidemment revenir sur le crop top à l'école, ce t-shirt qui dévoile le nombril, et ça fait toujours réagir nos auditeurs, les juilletistes qui démarrent leurs vacances, vous l'avez dit ce week-end. Vos régions préférées, appelez-nous au 3210.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Comme un parfum de liberté, les vacances scolaires débutent officiellement mercredi, mais déjà les grands départs.
Vive les vacances, les souris dansent.
Vacances, viens faire du tout.
On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo, et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano.
On attend 1 million de personnes dans les gares ce week-end. Il n'y aura pas de perturbations sur les Ouigo puisque les syndicats ont obtenu des revalorisations de salaire et des primes. Vincent Serrano, vous êtes gare de Lyon à Paris où c'est déjà l'ambiance des grands jours.
Oui, beaucoup de monde depuis ce matin. Les valises sont colorées, les chapeaux de paille et les planches de surf sont de sortie. Les voyageurs avancent avec le sourire vers les quais. Enfin, pas tous. Dominique tire la langue, entraînant 2 grosses valises au pas de course pour rattraper son petit-fils.
On est tous contents. Avec les petits-enfants, on est ravis. Surtout pour eux, ils sont super contents de partir de Paris et d'être en vacances pour une semaine.
Comment tu t'appelles, toi ?
Pierre.
Tu sais où tu vas, au moins ?
Avignon.
Et pour faire quoi ?
Pour faire les foufous.
Il est vraiment surexcité.
C'est pour tout le monde pareil. On est ravis d'être dehors, de pouvoir profiter, puis de revivre normalement, en fait, la vie.
On en avait besoin, c'est ce que nous disent ces voyageurs, l'air frais, le repos. Et vous allez voir à chacun ses priorités. Écoutez celle de Vasco avec sa femme et sa fille.
Alors on va en Bourgogne, on va boire du vin.
C'est tout ce que vous allez faire ?
Bah, principalement, visiter accessoirement des choses, mais bon, notre but c'est ça. Bah, nous ça s'est passé, le premier confinement c'était très joyeux puisqu'elle venait de naître. On faisait des galipettes à la maison, c'était marrant. Alors deuxième, troisième, ça commençait un petit peu à lasser.
Votre prénom ?
Victoria.
Il va boire du vin, vous allez faire quoi ?
Moi je vais boire aussi du vin.
Le vin qu'ils promettent de boire quand même, avec modération, mais pour tout le reste, le soleil, la famille, les vacances, ça, ce sera sans limite.
Vincent Serrano en direct de la gare de Lyon à Paris. Quant à la grève aux aéroports de Paris, elle bloque le terminal 2E de Roissy, ce qui entraîne des retards d'au moins une heure. Et ce n'est pas sans un certain plaisir que l'on retrouve Bison Futé qui hisse le drapeau rouge en Île-de-France, orange ailleurs. Et en termes de sécurité routière, plus sérieusement, la Cour des comptes s'inquiète. Le nombre de morts ne baisse plus sur les routes depuis 2013. On ne compte pas bien sûr l'année 2020 confinée. Et la Cour estime que la politique du tout radar n'est pas la bonne, Christophe Bourou.
Oui, bien, mais peut mieux faire, telle est l'appréciation de la Cour des comptes, bien car les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Plus de 18 000 tués sur nos routes en 72 contre 3 500 ces dernières années. Mais peut mieux faire car le nombre de morts a cessé de diminuer à tel point que la position de la France en Europe s'est dégradée, passant du 7e au 14e rang en une décennie. En cause, le tout radar qui nous a fait oublier eh bien, d'autres sujets, notamment sur les aménagements des routes. Les sages estiment aussi que la France devrait davantage faire attention aux personnes dites vulnérables, comme les piétons et les cyclistes. Enfin, la Cour des comptes s'alarme sur une baisse de la présence des forces de l'ordre sur le terrain. 40% de policiers et gendarmes en moins. Résultat, bien moins de contrôle comme pour l'alcool. Or, l'alcool est avec la vitesse la première cause d'accident mortel. Pourtant, les contrôles via les radars automatiques restent largement majoritaires. 70% des points retirés le sont pour des excès de vitesse, contre à peine 5% pour l'alcool et à peine 1% pour les stupéfiants.
Un décryptage Christophe Bourou. « Je ne voulais tuer personne », se défendait il y a quelques jours Hubert Caouissin, accusé du quadruple meurtre de sa belle-famille sur fond de haine et d'improbable magot. Ce matin, la cour d'assises de Loire-Atlantique a entendu un expert psychiatre. Anne Luenaf, son discernement n'est pas aboli, mais l'accusé s'est enfermé dans un délire de persécution.
Oui, dans son box, Hubert Caouissin n'a pas levé les yeux pendant plus de 2h30, pendant que le docteur Zaguri détaille à la barre les sombres méandres de ce délire, comment peu à peu l'accusé s'est enfermé dans la certitude d'un danger de mort imminente, notamment pour son fils qui aurait pu prétendre à une part du magot. Les suspicions deviennent des interrogations qui deviennent des convictions. Tous les actes des trois decks sont interprétés dans le sens de la malveillance. Et lorsque René lui parle de ce trésor, de cette heure familiale, ce qui n'avait pas de sens va en prendre. C'est l'eureka psychotique, la lumière qui succède aux ténèbres. Cette projection paranoïaque a même pu mettre l'accusé dans un état de légitime défense délirante, explique le psychiatre, qui a rarement vu dans sa carrière une illustration aussi complète de ce genre de délire. Il a expertisé l'accusé deux fois et entre-temps, ce délire s'est renforcé. Quant à savoir si Hubert Caouissin sera dangereux dans 5 ans, dans 10 ans, quand il sortira de prison, le docteur Zaguri lâche dans un sourire « Je préfère donner ma langue au chat ».
Anne Luenaf au palais de justice de Nantes pour RTL. Une sacrée prise, un chargement de 14,5 tonnes de tabac de contrebande a été saisi fin mars par la brigade des douanes de La Rochelle, mais on ne l'apprend qu'aujourd'hui. Les cartons étaient répartis sur 36 palettes dans une remorque immatriculée au Portugal. Dans un instant, on s'interroge tous ensemble sur l'hypothèse d'une vaccination obligatoire pour tous.
RTL Midi
avec Christelle Robière.
Nous sommes entrés dans une course de vitesse avec le variant Delta. Un texte de loi est en préparation pour obliger les soignants à se faire vacciner, mais on évoque aussi désormais une obligation pour tous au cas où l'objectif des 80% de vaccinés ne serait pas atteint d'ici septembre. Il faut l'envisager, dit ce matin la présidente de la Haute Autorité de Santé. Partons dans les Bouches-du-Rhône, qui est l'un des départements les moins vaccinés. 45% des habitants ont reçu une première dose. Une obligation. Qu'en dit-on à Marseille, Étienne Baudu?
Eh bien, écoutez, les avis sont assez tranché tout de même. Vous avez ceux comme Gérard pour qui la vaccination est devenue indispensable étant donné la situation et donc favorable à cette obligation.
Je crois qu'il y a 11 vaccins obligatoires en France. Personne ne dit non, je ne veux pas faire la polio, je ne veux pas faire ci, on le fait. Donc je ne vois pas pourquoi à terme on ne le ferait pas pour le Covid.
Margot, elle, à l'opposé, alors elle est totalement contre.
Je suis contre parce qu'on nous avait dit au départ que ça n'allait pas être obligatoire et en fait on se rend compte très vite que si on n'a pas de vaccin, on ne pourra rien faire. Et du coup pour moi c'est du foutage de gueule. Ils n'ont pas été transparents dès le départ donc il ne faut pas la rendre obligatoire non.
Pour Laurine, son cœur balance, il faut sortir de cette situation, mais le principe de liberté reste primordial.
On va pas vivre ça pendant 15-20 ans encore. Enfin, au moment donné, il faut que la vie elle reprenne quoi.
Et donc ce serait bien?
Oui et non, parce qu'après on peut pas contraindre les gens à forcément se faire vacciner. Il faut laisser un libre choix aux gens aussi. Ceux qui veulent se faire vacciner le font, ceux qui veulent pas le font pas. Après chacun a ses risques et périls quoi.
Enfin pour Patricia, il ne faut pas se précipiter et propose une solution originale.
Il faut voir un petit peu comme ça se présente pour les mois qui suivent aussi. Il faudrait vraiment qu'on soit encore dans une vague très importante comme elle s'est passée là dernièrement. Peut-être un référendum, ça serait peut-être compliqué, mais bon.
Compliqué, mais non, certainement pas.
Et le variant Delta progresse rapidement dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Plus de 100 cas détectés et 13 clusters d'après l'Agence régionale de santé. Alors, faut-il rendre la vaccination obligatoire pour tous? C'est la question du jour sur RTL.fr sur laquelle vous allez revenir avec les auditeurs, Pascal Praud.
Vaccination obligatoire pour les soignants, évidemment. Vaccination obligatoire pour les gens fragiles et qui terminent en réa, évidemment. Mais pourquoi vacciner des enfants de 15 ans ou de 20 ans notamment, qui a priori ne termineront pas en réa si toutes les autres personnes sont vaccinées? L'objectif, c'est de protéger l'hôpital, si j'ai bien compris. L'objectif, c'est que les réa n'explosent pas. Si toutes les personnes fragiles en comorbidité sont vaccinées, il n'y a pas de raison que les autres finissent en réa.
L'objectif, c'est d'atteindre l'immunité collective
non,
aussi, Pascal.
C'est impossible. C'est absolument impossible. Alors là, tous les épidémiologistes le disent. L'objectif,
ils disent aussi que si on est à 80% de personnes vaccinées...
L'objectif tout de Martin Blachier, je les ai tous, comme vous, sur les studios et les plateaux, c'est impossible. L'objectif, c'était que les réas n'explosent pas pour que l'hôpital soit préservé. C'est toujours ça qui a été donné. Maintenant, si l'objectif, c'est que le virus ne circule pas, c'est un autre objectif. Et ça, c'est quasiment impossible.
Oui, parce que le virus, pendant ce temps-là, virgule. Alors, il circule. Une obligation pour tous, évidemment, ça change tout. Et politiquement, c'est aussi une prise de risque. On va voir ça avec vous, William Galibert. Mais d'abord, écoutons Emmanuel Macron. C'était en décembre dernier.
Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Et après, je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence qu'à l'obligation.
William Galibert, ça veut dire qu'il a changé d'avis, Emmanuel Macron ?
Ça veut au moins dire que le travail de conviction, comme dit le président, ne fonctionne pas. Pas assez bien, pas assez vite. Et ce qui s'est passé pour les soignants est très intéressant. À partir de janvier, le ministre de la Santé leur a lancé des appels. Allez-y, faites-vous vacciner. Ça n'a pas suffi. En mars, il leur adresse un courrier très solennel. S'il vous plaît, faites-vous vacciner. Ça ne suffit toujours pas. Maintenant, on est en juillet, les chiffres sont trop bas. Alors, nous dit-on au gouvernement, on prend nos responsabilités. Maintenant, est-ce que demain ou après-demain, Emmanuel Macron va annoncer la vaccination obligatoire pour tous ? Non, il ne le fera pas. Mmh. Il faut plutôt voir ça comme un petit coup de pression. Attention, on ne se relâche pas. Et tous ceux qui peuvent aller se faire vacciner doivent y aller. Sinon, il va falloir réfléchir à l'obligation. Mettre le sujet sur la table, c'est aussi une façon d'essayer de rebooster les prises de rendez-vous qui plafonnent en ce moment pour ne pas justement en arriver à cette obligation et surtout pour ne pas revivre la même rentrée que l'année dernière avec une quatrième vague ou un nouveau bouclage du pays. C'est un peu, va ranger ta chambre, sinon je vais t'inciter
sinon
beaucoup
ça
plus.
Mal se passer.
Voilà, c'est un peu ça.
Voilà, vous avez les éléments du débat, vous pouvez nous appeler au 3210. L'Élysée transformée en foire exposition en mode Made in France. Tout ce week-end, chaque département sera représenté avec au moins un produit emblématique des savoir-faire locaux. Le yaourt nature de la ferme des Peupliers représente l'heure. Frédéric Veil, où vous êtes pour RTL ?
Oui, c'est ici, en pleine campagne normande, que ce yaourt est fabriqué depuis plus de 40 ans. Et comme le dit Édouard Chedru...
Si on arrive à faire ce yaourt, c'est pas le travail en pleine à produire des fourrages de qualité, c'est pas le soin apporté aux vaches tous les jours de l'année, 365 jours, pour avoir un lait de qualité. Et puis c'est aussi le travail de toutes les équipes derrière pour supprimer ce lait. Le seul objectif, c'est que notre yaourt soit le meilleur possible. C'est vrai que de pouvoir exposer à l'Élysée, pour nous, c'est une très grande fierté et un grand plaisir.
C'est un vrai yaourt qui va être exposé ?
Non. Le yaourt va être exposé comme une pièce de musée, donc on a été obligé de faire un petit yaourt fictif. Mais rassurez-vous, il y a toujours des vrais yaourts dans le frigo, donc on pourra continuer à fournir.
Plus de 3,5 millions d'exemplaires de ce yaourt sont écoulés chaque année par la ferme des Peupliers, qui, après le coup de pub de David Beckham, qui en 2018 avait clamé son amour pour ses yaourts sur les réseaux sociaux, va peut-être aujourd'hui séduire Emmanuel Macron.
Aujourd'hui, si on en est là aussi, c'est parce qu'il y a eu des consommateurs avant David Beckham ou avant Emmanuel Macron.
C'est quoi le petit plus de ce yaourt ?
Il est fait avec beaucoup de passion.
Voilà, Frédéric Veil n'est pas le dernier des gourmands. Les quarts de finale de l'Euro, tout à l'heure, les Suisses qui nous ont sorti lundi rencontrent l'Espagne à 18h à Saint-Pétersbourg. À suivre aussi une affiche digne d'une finale, Italie-Belgique, 21h à Munich, sur M6 et dans RTL Foot. Sur le Tour de France, la spectatrice à l'origine d'une chute massive du peloton samedi dernier a été présentée au parquet ce matin. Elle sera jugée en correctionnel le 14 octobre. Dans un instant, nous partons rejoindre Christophe Paco, RTL chez vous.
RTL Midi.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
Et on vous retrouve, Christophe, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Christelle. Sur la route de la course aujourd'hui, avec un départ sous un grand soleil ce matin à Vierzon.
T'as voulu voir Vierzon, il y en a vu Vierzon.
Coup de cœur, histoire du tour, question du jour et rencontre ce midi avec l'animateur comédien et acteur, Cartman.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
RTL chez vous.
Eh oui, Maryse, bonjour.
Bonjour Cartman.
ça c'est de la radio de jeunes, hein.
Mais c'est vrai que ton spectacle dernier, Cartman, je te tutoie, hein, parce que voilà, tu te moques un peu des gens qui ont pris un peu de bouteille, non?
Bah, mais j'en fais partie, donc je peux le faire. Mais je me moque autant en fait des jeunes que des gens qui ont pris de la bouteille. Moi, quand je vois que la génération d'aujourd'hui, parfois sur les réseaux, comment ils communiquent, tout ce qui a trait à l'image et tout ça, je pense qu'on a le droit de se moquer. Et puis à l'inverse, on a le droit de se moquer aussi de l'autre génération qui a un peu de mal avec tout ça et qui comprend pas. Moi, je vois parfois quand je fais des photos avec des gens, quelqu'un de plus de 40 ans qui essaie de faire une photo, ça peut prendre 10 minutes parfois. On arrive toujours à s'entendre et en même temps, il y a tellement de différences qui font qu'on peut réunir tout le monde dans la salle, rire les uns des autres et à un moment donné, on rit tous ensemble.
Ce qui fait le plus plaisir en ce moment, c'est de voir votre sourire comme vos collègues, j'allais dire comme vos confrères qui montent sur scène. On retourne à la vie, quoi, quelque part. Hein.
Bah moi, de toute façon, nous, notre vie en tant qu'artiste, c'est d'être sur scène, mais on a aussi envie en tant qu'individu de pouvoir se retrouver, de rire. Là, quand je vois aujourd'hui l'ambiance qu'il y a sur ce tour, voilà, c'est ça la vie. Quoi.
Pour terminer votre affiche de spectacle, c'était une image Panini de mémoire. Hein.
Ouais.
C'était un fouteux. Là, vous allez mettre un maillot de coureur ou... ah.
Alors, j'ai l'impression que la petite tenue avec la peau de chamois, ça me met moins en valeur.
Pour moi, il y a le maillot d'Mbappé, il ne vaut pas très cher en ce moment.
Écoute, moi, j'ai été très intelligent. Ouais. Je l'ai acheté il y a 15 jours, je ne l'ai toujours pas reçu. Je viens de recevoir un message qui me dit votre maillot est disponible. J'ai répondu, tu m'étonnes.
On se voit quand sur scène?
Écoute, moi, je suis en tournée à partir de septembre. Vous pouvez venir me voir et je serai sûrement de retour à Paris 2023. On fera un truc avec les auditeurs d'RTL. On fera gagner quelques places. On se fera une grande fête tous ensemble. Voilà, entre les deux confinements qui arrivent, on trouvera un petit moment.
Salut Cartman, bonne journée.
À très vite.
Christophe Paco.
RTL chez vous.
RTL chez vous, le coup de cœur de Laurent Jalabert. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Ça va être long, on s'est levé très tôt ce matin Laurent. 6h, 6h30 de vélo. Mais heureusement, les organisateurs nous ont tracé un petit final aux oignons. Hein.
Oui, bon, la première partie, c'est sûr, ça va être long, mais par contre, le final devrait être passionnant. Oui, c'est vrai, avec un final explosif, avec une succession de boss qui devrait, à mon avis, dynamiter la course. Et surtout, ce sprint bonus avec des bonifications à 18 km de l'arrivée, au sommet d'une bosse de 6 km, ça pourrait bien lancer la course. Si une échappée n'est pas partie de loin, on verra la Philippe à l'attaque, parce qu'il est dans son coin, il est dans sa région ici.
C'est vrai. On va mener grand train sur cette étape vers le Creusot aujourd'hui, Laurent Jalabert.
Il ne faudra pas oublier d'accrocher les bons wagons.
Ça, c'est sûr, Laurent Jalabert, au terme de cette longue, très longue étape de 249,1 km entre Vierzon et le Creusot. Bonne journée à ce soir pour le club Jalabert.
À ce soir.
18h30, 19h.
Christophe Paco.
RTL, chez vous.
Et sur la route, en direction du Creusot, la voiture d'RTL vient de s'arrêter et est allée à votre rencontre. Christian Panvert vous a demandé votre avis sur cette longue étape marathon.
C'est une étape pour puncheurs et on verra peut-être même certains grimpeurs qui montreront des velléités, surtout sur le final dans le Morvan.
Super pour les échappés, je suppose. Espérons qu'ils puissent aller au bout, que ça mette un petit peu plus de punch à la course.
On dit que c'est le Liège-Bastogne-Liège du Tour de France 2021.
Le Tour de France, c'est un défi, c'est le dépassement, c'est la volonté d'aller plus loin. Eh bien, ce sera l'occasion avec cette étape-là.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
Avec Christophe Bérard du Parisien aujourd'hui en France, notre spécialiste vélo. Une semaine de course, quasiment, et du public partout et le soleil retrouvé.
Exactement, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que les stades de foot sont réouverts. C'est le stade des bords de route est réouvert. On avait vraiment vécu un tour 2020 très pénible avec chloroformé par ses masques. Et là, il suffit simplement de rouler avant les coureurs et de voir cette ferveur incroyable. Les gens, le public attendaient ça avec une impatience. Et ce qui est vraiment agréable, c'est de retrouver cette ferveur, cette envie, ces cris, ces odeurs même de merguez, de barbecue au bord des routes. On en avait tous besoin. En fait, il fallait que ça nous manque un an pour qu'on réalise à quel point le Tour de France sans le public, c'est pas le Tour de France.
Ouais, même déguisé. Hein. Je vous ai vu avec un petit Bob l'autre jour. Non, c'est pas vous? Ah d'accord, avec le Bob Vichy, non, c'est pas vous. Merci Christophe Bérard. Bonne étape encore aujourd'hui pour les baroudeurs, on le sait, vers cette arrivée qu'on attend tous au Creusot. Merci Christophe.
À bientôt, merci.
Christophe Paco.
RTL, chez vous.
Fenêtre sur Tour, comme tous les jours dans RTL chez vous, l'histoire du Tour avec Christian Laborde.
C'est l'ensemble de Vierzon, le peloton du Tour, avant de rejoindre le Creusot, roule sur les terres du sprinteur Jean Grazik, né à Neuvy-sur-Barangeon, le 26 mai 1933. Ses parents sont polonais. Il obtient la nationalité française en 1949 et le peloton lui donne tout de suite un surnom russe, Popov. Popov, quand il a du gaz, parvient à faire ce que seul Rick Van Steenbergen est en mesure de faire, battre André Darrigade au sprint. Il le bat en 1959 lors de l'étape Rouen-Rennes et en 60 lors de l'étape Luchon-Toulouse. En 1960, il remporte le maillot vert comme il l'avait remporté en 1958, année de la victoire dans le Tour de Charlie Gaulle. Le vert est la couleur préférée de Jean, celle du maillot qu'il convoite, celle du vélo qu'il chevauche, un vélo Elliott. Quel beau nom, Elliott. Elliott, un hello d'Alouette. Le vert est aussi la couleur des arbres. Et Jean Grazik aime les arbres. Quand il ne roule pas, Jean Grazik plante des arbres. Des arbres autour de sa maison, à Neuvy-sur-Barangeon.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
La suite.
Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or.
RTL Midi.
La météo, Valérie Quintin, classique pour un 2 juillet.
Écoutez, c'est pas mal. Non seulement on a quand même du soleil sur la plupart des régions, des températures qui sont, ma foi, quand même assez élevées. Alors déjà, des nuages sont en train d'aborder la pointe bretonne ainsi que le Cotentin. Pour l'instant, rien, simplement des nuages. Pas encore d'averses, mais il va y en avoir avant la fin de la journée sur les régions de au nord de la Seine principalement. Quelques averses ici ou là, rien de trop méchant. On attend aussi ce soir des orages, toujours un petit peu costauds sur les Pyrénées, ça change pas. Ailleurs, donc un temps plutôt ensoleillé, des températures bien douce, bien de saison, 22 degrés à Abbeville cet après-midi, 23 à La Rochelle, 24 à Caen, 25 degrés à Strasbourg, 26 pour Paris, Orléans et Ambérieu, 32 degrés à Toulouse et même 33 degrés à Marseille.
Et ce week-end, j'ose à peine vous poser la question.
Moi, j'ose à peine vous dire, en fait, pour ce week-end et même pour la semaine prochaine, parce que dès demain, ça recommence. Des orages un petit peu partout qui vont traverser le territoire. Ils seront assez costauds, hein, demain, dans le courant de l'après-midi, entre le Massif central, les Alpes et en remontant vers le nord-est. On va trouver un temps ensoleillé, en tout cas très lumineux sur les bords de la Méditerranée pour la journée de demain. Pour dimanche, c'est à peu près la même chose, avec peut-être un soleil qui va un petit peu régresser aussi près de la Méditerranée. Il y a vraiment que la Corse qui va garder un temps ensoleillé. Reste que dans la foulée, les températures vont baisser un petit peu. Alors pas trop demain, 12 à 20 degrés au réveil, 19 à 31 l'après-midi, mais dimanche une moyenne de 20 degrés à nouveau pour la moitié nord, 24 pour la moitié sud.
Et ça continue encore et encore.
Et ça continue, voilà, c'est ça. En fait, je ne dis plus rien.
Merci Valérie. RTL, il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Bonjour à tous. Elias est déjà avec nous et c'est la question du jour. Vaccination obligatoire pour ou contre et quasiment pour tout le monde. C'est la tendance. Elias ?
Absolument contre.
Eh bien, vous allez nous expliquer pourquoi. Le rappel des titres avec Christelle.
Oui, et on part tout de suite sur la route du Tour, retrouver Morad Djabari sur la 7e étape entre Vierzon et Le Creusot, la plus longue de ce Tour de France, Morad.
Oui, avec 30 coureurs échappés avec 3 minutes 30 d'avance. C'est l'échappée du jour avec le maillot jaune qui la compose. Mathieu Van Der Poel, le Belge Woodwan, le troisième vainqueur habitué des classiques. Le vainqueur du Tour, Vincenzo Nibali, accompagné lui aussi de Simon Yates, de Philippe Gilbert, de Français, Franck Bonamour et Christophe Laporte, sur un peloton emmené par l'équipe de Tadej Pogacar, mais impossible de compléter l'écart. Malheureusement, Julien Alaphilippe n'est pas dans cette échappée. Plus de 85 km parcourus, Christelle, sur 249. Prochain point dans une demi-heure.
A tout à l'heure, Morad Djabari sur la moto RTL. La spectatrice à l'origine d'une chute massive dans le peloton du Tour samedi dernier en Bretagne a été présentée au parquet à Brest. Elle sera jugée en correctionnel le 14 octobre. Les conseils régionaux élisent aujourd'hui leur président. Xavier Bertrand a promis de continuer de se battre pour les Hauts-de-France, bien qu'il ait déjà déclaré sa candidature pour la présidentielle. En région PACA, Renaud Muselier, réélu grâce au Front républicain, a promis d'associer étroitement la gauche à sa gouvernance. Attention, si vous partez en vacances depuis les aéroports de Paris, certains vols sont en retard d'au moins une heure à Roissy après une manifestation de grévistes au terminal E. La Haute Autorité de Santé envisage de rendre la vaccination obligatoire pour tous. Pour l'instant, Jean Castex consulte les élus locaux et les groupes parlementaires autour d'une loi pour contraindre les soignants.